conférence d'introduction à la session philosophique Le regard du philosophe sur la présence de Dieu de Père Marie-Dominique Philippe, le 1er juillet 2001 à Saint-Jodard.
Cette prière, parce que cette session se fait dans un cadre religieux, monastique, mais elle doit être philosophique. Alors, il y a l'avantage du cadre, parce que pour faire de la philosophie sérieusement, on a besoin de prier. Des personnes comme Plotin, qui n'était pas chrétien, qui était néoplatonicien, il priait. Et quand le cours était trop difficile, il demandait à ses étudiants, ses amis, arrêtons-nous et prions. On n'est plus capable de faire ça. Parce qu'on dit, ah, vous mêlez la prière, la philosophie. On est homme. Et en tant qu'homme, notre vie chrétienne joue sur toute notre intelligence. Normalement, un chrétien devrait être plus intelligent. Normalement, ça devrait être comme ça. Ça n'arrive pas toujours. Hein, parce que ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on a un brevet d'intelligence. Hélas. Je dis bien hélas, ce serait tellement plus agréable que tous les chrétiens soient intelligents. Ils ne le sont pas tous. Mais ils doivent devenir... Par charité fraternelle, je cultive mon intelligence pour être plus capable d'aider mon prochain. Il faudrait ajouter ça, hein, dans l'acte de charité fraternelle. Et c'est vrai, parce que c'est quand même toujours plus agréable, même si on ne partage pas les idées. On peut très bien ne pas partager les idées, mais on a quand même quelqu'un qui réfléchit et qui, sur les sujets importants de la vie humaine, a réfléchi. De sorte que faire un cours de philosophie, une session de philosophie, dans un cadre religieux, c'est plus agréable. On aura toute la journée. Le matin, grande conférence, l'après-midi aussi, entre deux, on dira ça demain, possibilité de discussion, de voir les choses qu'on n'a pas compris, qu'on voudrait comprendre plus, par petits groupes. Et le soir, alors, s'il y en a qui résistent à la prière, je dirais qu'ils ne viennent pas, mais c'est ouvert à tout le monde. On fera plus un cours au point de vue théologie. La manière dont le philosophe aide le théologien. C'est aussi intéressant. L'homme de foi. Si on est philosophe et qu'on est chrétien, on est théologien. Vous comprenez bien. Les théologiens ne seraient pas toujours d'accord là-dessus, mais moi je suis d'accord là-dessus. Parce que je suis philosophe. Alors, si on a la foi et qu'on est philosophe, forcément, dès qu'on a découvert quelque chose en philosophie, immédiatement, au point de vue de la vie chrétienne, ça ressort d'une façon ou d'une autre. Mais c'est très net. On aura l'occasion de le voir, du reste. Alors, ce soir, comme tout le monde n'est pas là, je ne commence pas à faire un cours de philosophie, non. Je réserve ça demain. Il faut bien dormir cette nuit. Et je vous lis quelques passages très importants de la sagesse. La sagesse est un livre, comme les proverbes, et c'est un livre de l'influence grecque sur les sémites, sur les Juifs. Alors, c'est très intéressant à ce point de vue-là, parce que ces livres ont une tournure beaucoup plus philosophique. Et ils sont intéressants parce qu'il y a une sagesse philosophique, une sagesse acquise, comme la théologie, elle est sagesse aussi. Et elle est sagesse si la philosophie aide le philosophe, aide le chrétien. Chapitre 7 de la sagesse. Je suis moi aussi un homme mortel, pareil à tous. C'est l'œcuménisme, hein, l'homme mortel. Un descendant du premier être modelé de la terre. J'ai été façonné en chair dans le ventre d'une mère, ou pendant 10 mois, dans le sang, j'ai pris consistance d'une semence d'homme et du plaisir, compagnon du sommeil. Et moi, à ma naissance, j'ai aspiré l'air commun. C'est le premier bien commun. Quand l'air est pollué, on sait. L'air commun. Je suis tombé sur la terre qui nous reçoit tous pareillement. Et des pleurs, comme pour tous, furent mon premier cri. J'ai été élevé dans les langes et parmi les soucis. Aucun roi ne connut d'autre début d'existence. Même façon pour tous d'entrer dans la vie et pareille façon d'en sortir. Vous voyez, ça c'est très philosophique, hein. Il n'y a rien du croyant. C'est le philosophe qui parle, l'œcuménisme d'un être mortel, d'une base fondamentale. On est tous à la même école. C'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. Alors là, on voit tout de suite l'homme ouvert à l'aspect religieux. C'est pourquoi j'ai prié et l'intelligence m'a été donnée. J'ai invoqué et l'esprit de sagesse m'est venu. Je l'ai préféré au sceptre, au trône. J'ai tenu pour rien la richesse en comparaison d'elle. Je ne lui ai pas égalé la pierre la plus précieuse, car tout l'or au regard d'elle n'est qu'un peu de sable. À côté d'elle, l'argent compte pour de la glaise. Plus que santé et beauté, je l'ai aimée. Et j'ai préféré la voir plutôt que la lumière, car son éclat ne connaît point de repos. Mais avec elle me sont venus tous les biens, et par ses mains une incalculable richesse. De tous ces biens, je me suis réjoui parce que c'est la sagesse qui les amène. J'ignorais pourtant qu'elle en fut la mère. Sans fraude, j'ai appris et sans envie, je communique. Je ne cache pas sa richesse, car elle est pour tous les hommes un trésor inépuisable. Ceux qui l'acquièrent obtiennent l'amitié de Dieu, recommandée par les dons qui viennent de l'instruction. Que Dieu me donne d'en parler à son gré et de concevoir des pensées dignes des dons reçus, parce qu'il est lui-même est le guide de la sagesse et est le directeur des sages. Nous sommes en effet dans sa main et nous et nos paroles et toute intelligence et tout savoir pratique est dans ses mains. C'est lui qui m'a donné une connaissance infaillible des choses pour connaître la structure du monde et l'activité des éléments, le commencement, la fin et le milieu des temps, les alternances des solistes et le changement des saisons, les cycles de l'année et les positions des astres, la nature des animaux, les instincts des bêtes sauvages, le pouvoir des esprits et les pensées des inconnus, les variétés des plantes et les vertus des racines. Tout ce qui est caché et visible, je l'ai connu, car c'est l'ouvrière de toutes choses qui m'a instruit la sagesse. Vous voyez, c'est important dans le monde d'aujourd'hui de se rappeler ça, qui est à la frontière de la révélation. Parce que tout ce qu'il dit, je peux philosophiquement le dire. Mais c'est très bien dit. Ce qui est agréable. La sagesse est le sommet et par elle, toute la vie change. La philosophie, quand elle est sagesse, modifie toute notre vie. Vous voyez, on est très loin de la sagesse, on est très loin de la philosophie qui s'enseigne publiquement, où on ne parle pas beaucoup de la sagesse. Ça, c'est sûr, actuellement, ce n'est pas tout à fait ça dont on parle. Mais c'est dommage, parce que la sagesse fait partie du patrimoine humain, le grand patrimoine humain, comme l'art. L'art, la sagesse, ça fait partie du patrimoine humain. Ne rien connaître à la sagesse, c'est triste. C'est se déshériter soi-même. C'est se mettre en dehors de ce qu'il y a de plus grand, de plus beau chez l'homme. En elle, en effet, en la sagesse, en elle, en effet, un esprit intelligent, sain, unique, multiple, subtil, mobile, pénétrant, sans souillure, clair, impassible, ami du bien, prompt, irrésistible, bienfaisant, ami des hommes, ferme, sûr, sans souci, qui peut tout, surveille tout, pénètre à travers tous les esprits, les intelligents, les purs, les plus subtils. Ouais, c'est beau, ça va l'éloge de la sagesse. Cette pierre précieuse qu'on peut acquérir, qu'on tenait dans une bonne école. Et on essaie d'être une bonne école pour acquérir la sagesse. Et la sagesse change toute la vie. Parce que c'est un bien qui ne périt pas. Et ça permet à l'homme de développer ce qui en lui, au point de vue créé, pas au point de vue surnaturel. Quoique la sagesse surnaturelle existe aussi. Hein. On peut être sage comme chrétien. C'est la sagesse de la croix. Ici, c'est une sagesse qui est très près de la philosophie. C'est pour ça que c'est une manière d'entrer dans une session philosophique. Car plus que tout mouvement, la sagesse est mobile. Elle traverse et pénètre tout à cause de sa pureté. Elle est en effet un effluve de la puissance de Dieu, une émanation toute pure de la gloire du Tout-Puissant. Aussi rien de souillé ne s'introduit en elle, car elle est un reflet de la lumière éternelle, un miroir sans tache de l'activité de Dieu, une image de sa bonté. Bien qu'étant seule, elle peut tout. Demeurant en elle, elle renouvelle l'univers. Et d'âge en âge, passant par des âmes saintes, elle en forme des amis de Dieu et des prophètes. Car Dieu n'aime que celui qui habite avec la sagesse. Elle est en effet plus splendide que le soleil. Elle surpasse toutes les constellations. Comparée à la lumière, elle l'emporte, car celle-ci fait place à la nuit. Mais contre la sagesse, le mal ne prévaut pas. Elle s'étend avec force d'un bout du monde à l'autre et elle gouverne l'univers pour son bien. C'est elle que j'ai chérie et recherchée dès ma jeunesse. J'ai cherché à la prendre pour épouse et je suis devenu amoureux de sa beauté. Elle fait éclater sa noble origine en vivant avec Dieu, car le maître de tout l'a aimée. Elle est de fait initiée à la science de Dieu, et c'est elle qui choisit ses œuvres. Si dans la vie la richesse est un bien désirable, quoi de plus riche que la sagesse qui opère tout? Et si c'est l'intelligence qui opère, qui plus qu'elle est l'ouvrière de ce qui est, aime en la justice. Il y a un autre passage qui est très beau aussi, oui, qui nous montre ce qu'est la sagesse. Alors nous verrons demain comment acquérir la sagesse, hein, le parcours qu'il faut faire. Et nous installerons dans la sagesse. J'espère que vous pourrez comprendre, mais nous serons avec la recherche du Père dans la découverte la plus magnifique de la sagesse. Découvrir Dieu comme Père, ça, c'est la merveille de la sagesse. Sans faire appel à la foi, uniquement en faisant appel à l'intelligence. Alors évidemment, vous pouvez vous arrêter avant. Vous savez, quand on monte l'Himalaya, au bout de quelques mille mètres, on risque de s'arrêter. En philosophie, c'est comme ça. Tant qu'on regarde l'homme, ça va. Mais quand on regarde ce qu'il y a de plus fin dans l'homme, ce qu'il y a de plus subtil dans l'homme, l'amour et l'intelligence, on s'arrête vite. On est fatigué. Oui, vain par nature tous les hommes en qui se trouvait l'ignorance de Dieu. C'est la sagesse qui me permet de connaître Dieu, qui, en partant des biens visibles, n'ont pas été capables de connaître celui qui est. Et qui, en considérant les œuvres, n'ont pas reconnu l'artisan. Mais c'est le feu, ou le vent, ou l'air rapide, ou la voûte étoilée, ou l'eau impétueuse, ou les luminaires du ciel qu'ils ont considérés comme des dieux gouverneurs du monde. Aussi, charmés de leur beauté, ils les ont pris pour des dieux, qu'ils sachent combien leur maître est supérieur, car c'est l'auteur même de la beauté qui les a créés. Et si c'est leur puissance et leur activité qui les ont frappés, qu'ils en déduisent combien plus puissant est celui qui les a formés, car la grandeur et la beauté des créatures font, par analogie, contempler leur hauteur. Ceci, toutefois, ne mérite qu'un blâme léger. Peut-être, en effet, ne s'égare-t-il qu'en cherchant Dieu et en voulant le trouver, versé dans ses heures, il les explore et se laisse prendre aux apparences tant qu'on voit leur beauté. Pourtant, eux non plus ne sont point pardonnables. S'ils ont été capables d'acquérir assez de science pour pouvoir scruter le monde, comment n'en ont-ils pas plus, davantage, pour découvrir leur maître? Et ça, c'est pour donner le courage de la montée vers la découverte de l'existence de Dieu. Parce que c'est par cette découverte de l'existence de Dieu que la sagesse se révèle à nous. Et nous nous situerons ensemble, au point de vue philosophique, dans cette recherche. Ce sera pas toujours commode, mais vous aurez autour de vous plusieurs qui pourront vous aider, vous soutenir. Parce que c'est une démarche sérieuse et importante que nous ferons ensemble. Et je dis bien que nous ferons ensemble. Parce que, vous comprenez, si vous ne la faites pas avec moi, ce n'est pas la peine. Il faut la faire ensemble. Et on verra que quand elle est faite ensemble, dans l'amitié, c'est plus facile. Je crois qu'un monde comme le nôtre, qui très souvent ignore l'amitié véritable, qu'est-ce qui est le plus corrompu dans notre monde d'aujourd'hui? C'est l'amitié véritable. Parmi les choses humaines, hein, c'est ça qui est le plus corrompu. On ne voit plus ce que c'est que le véritable ami. Ça ne se voit plus. On ne voit plus ce qu'est Dieu, c'est sûr. Mais même parmi les hommes, on ne voit plus ce que c'est que l'amitié. Et tout se dégrade. Alors, il faut faire l'effort pour découvrir l'amitié, la personne, Dieu. Et il est vrai, la première chose à découvrir, c'est l'amitié. En découvrant l'amitié, on découvre la grandeur de l'homme. En découvrant la grandeur de l'homme, on découvre Dieu. Il y a une ponctuation très nette et très importante à suivre. Ce n'est pas une ponctuation logique. La logique ne fait jamais découvrir Dieu. Heureusement. Un dieu logique, ça n'irait pas très bien, je crois. Dieu est bon, infiniment bon. La logique n'est pas bonne, elle n'est pas infiniment bonne, elle est raisonnable. Et on reste enfermé dans le raisonnable. Tandis que l'amitié, l'amour, un véritable amour spirituel, ouvre notre cœur, nous ouvre sur nous en voyant la grandeur de l'ami. Et en voyant la grandeur de l'ami, on fait œuvre commune avec l'ami pour arriver à faire cette dernière démarche si imposante, si difficile, découvrir Dieu. Et à ce moment-là, on a le droit de s'asseoir. La sagesse nous est donnée.